Le sociologue Edgar Morin est né en 1921 et à 98 ans, il est aujourd'hui l'un des derniers intellectuels à avoir observé et vécu une grande partie du XXe siècle et les premières décennies du XXIe siècle. Edgar Morin raconte dans ses souvenirs qui paraissent chez Fayard une vie d'engagement, de rencontres avec celles et ceux qui sont devenus ses sœurs et ses frères, un livre qui témoigne de ses résistances, des hommes et des femmes qu'il a admirés de façon inconditionnelle et qui ont été ses héros et ses amis. Engagé en faveur de l'environnement, la voix d'Edgar Morin sur les questions environnementale est particulièrement précieuse, lui qui s'intéresse depuis de nombreuses décennies à l'écologie. Il est mon invité dans un instant et vous pouvez dialoguer avec lui en lui posant toutes vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On vous retrouve en duplex de la Côte d'Azur à l'occasion de la réunion en ce moment même du GIEC à Monaco.
Et ça y est, le texte final a été approuvé à 11h ce matin et moi je vais vous raconter l'envers du décor de ces derniers jours.
Dans la deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Cédric, un auditeur qui a créé une fresque sur le climat. Le feuilleton de la semaine avec un nouvel épisode de la série d'Antoine Lee sur l'écologie dans les banlieues qui nous emmènera aujourd'hui à Montreuil. Et puis enfin, notre invité découverte nous parlera tout à l'heure de la disparition annoncée de la pigrièche à poitrine rose en France métropolitaine. Voilà pour le sommaire de cette Terre au carré réalisée par Valérie à Yestaray, avec à la technique Clément Berman et Charles Lecas.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Edgar Morin.
Bonjour.
Vous publiez chez Fayard « Les souvenirs viennent à ma rencontre ». Est-ce que l'on prend beaucoup de plaisir à replonger dans sa vie pour en extirper ces moments particuliers ? Est-ce que cet exercice demande beaucoup d'efforts au cerveau pour faire rejaillir justement ces souvenirs inscrits dans la mémoire ?
Vous savez, les souvenirs jaillissent. S'enchaînent les uns les autres. Et puis parfois on découvre des trous de date, des trous de nom, mais heureusement il y a Google où on peut faire
se retrouver soi-même.
Ces trous. Mais comme je n'ai pas cherché à faire des mémoires, c'est-à-dire quelque chose d'exhaustif, disons demain et continu de ma naissance jusqu'à maintenant, je savais que c'était des souvenirs qui n'étaient pas la totalité de ce que j'ai vécu, mais ce qui me revenait et me semblait de plus en plus important. Donc, si vous laissez pas, alors vous du plaisir, de l'émotion, parfois du chagrin, en évoquant des épisodes tristes, mais surtout, je crois, une sorte de contentement, de refaire vivre des personnes que j'ai aimées, c'est-à-dire de poursuivre l'amitié au-delà de leur mort.
La mémoire est prodigieuse quand même, non ? Vous ne trouvez pas ?
C'est-à-dire que je crois que la mémoire ancienne est restée très forte, alors que souvent les événements les plus récents s'estompent et s'effilochent.
Ces souvenirs donc témoignent d'une extrême diversité de curiosité, évidemment, d'intérêt, mais aussi d'une obsession essentielle. Vous l'écrivez dès le début sur la triple question de l'homme, de la vie, de l'univers. Cette interrogation, elle se poursuit toujours, hein ?
Bien sûr, plus que jamais, je crois, parce que notre époque nous oblige à la poser de plus en plus intensément.
Ouais. Quand on s'intéresse à l'univers, est-ce que finalement on s'intéresse à la nature au sens très large ? Comment vous le percevez, vous, ce lien avec l'univers, justement, et la place de l'homme au milieu de cette immensité cosmique ? Est-ce qu'on peut parler d'une espèce d'écologie cosmique, quasiment ?
Incontestablement, parce que tout d'abord, il ne faut pas seulement nous rappeler que nous sommes des primates, c'est-à-dire en même temps des mammifères, des vertébrés, des animaux, des polycellulaires, et que nous avons, que nos cellules de notre corps, ce sont les héritiers des premières cellules qui sont apparues sur Terre, c'est-à-dire que finalement, c'est toute l'histoire de la vie qui, dans notre singularité, est présente.
Là aussi, c'est une sacrée mémoire, finalement, que nous portons en nous-mêmes.
Voilà. Nous la portons de façon inconsciente, mais elle est tout à fait présente. Et donc, la nature n'est pas seulement quelque chose qui nous enveloppe, et nous environne. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et d'autre part, ces molécules, ces atomes dont nous sommes formés, sont eux-mêmes formés de particules. Et tout ça relève de l'histoire de l'univers, puisque nous savons que les atomes de carbone se sont formés dans un soleil antérieur au nôtre et que nos particules sont peut-être nées en même temps dans les débuts de l'univers, il y a 13 milliards d'années.
Ouais.
Donc, nous avons le cosmos à l'intérieur de nous.
Ce sont les poussières d'étoiles d'Hubert Reeves, finalement, que nous portons en nous. C'est exactement ça.
Et je crois que grâce à l'astrophysique maintenant contemporaine, nous avons compris ce lien ombilical avec la nature, de même que grâce à Darwin et à ses successeurs biologiques, nous pouvons comprendre d'autres liens avec la nature vivante.
Ouais.
Donc c'est une chose qui est à l'intérieur de nous, et c'est très important d'en prendre conscience pour avoir cette conscience écologique dont nous avons besoin maintenant.
Alors Edgar Morin, vous le savez, cette émission, La Terre au Carré, est entièrement dédiée justement à l'environnement, à l'écologie. Si on remonte justement là encore dans vos souvenirs, comment votre conscience écologique est-elle née selon vous? Est-ce qu'il y a vraiment un événement qui a pu être le point de départ de tout cela?
Tout à fait. J'étais en Californie dans les années 69-70 du siècle dernier.
Ouais.
J'étais en rapport avec des jeunes biologistes de Berkeley et eux-mêmes travaillaient sur l'écologie, et ils ont commencé à m'alerter, et c'est à travers eux que j'ai d'abord pris connaissance du rapport Meadows, qui est le premier élément, la première déclaration, si vous voulez, ouverte, que notre ensemble de notre planète Terre était menacé de dégradation par notre civilisation technique, économique et financière. Et voilà. Ça, c'est le problème. En même temps, j'ai pu lire là-bas, à cette époque, un article qui m'a beaucoup impressionné de Ehrlich, qui s'appelait « La mort de l'océan ». À l'époque, ça semblait tout à fait farfelu, mais aujourd'hui, nous voyons que cette prédiction était juste, avec cette disparition, avec cette pollution de la faune marine, avec tout ce qui frappe aujourd'hui, les déchets, les saletés, le berceau. Donc, si vous voulez, donc j'ai eu fortement cette conscience, et quand je suis revenu en France, ça a commencé parce qu'il y avait un homme d'État néerlandais dont je ne me rappelle plus exactement le nom, qui déjà à l'époque défendait l'idée de croissance zéro pour justement empêcher la continuation de la dégradation. Et je me souviens que j'ai fait partie d'une sorte de débat organisé par l'hebdomadaire qui s'appelait à l'époque France Observateur, et qui est posé la question. Et c'est là que j'ai fait une communication qui s'appelait « L'an 1 de l'ère écologique », où je pensais que nous étions au début, et où en même temps je disais que ce problème n'était pas seulement le problème de la diminution de la biodiversité, n'est pas seulement le problème de la pollution de nos villes, n'était pas aussi le problème de la dégradation des sols sous l'agriculture industrielle et de la nocivité des nouveaux produits que nous prenons, que ça devenait un problème intérieur. Puis, parce que c'est pas seulement nos comportements que nous devons changer, c'est même, disons, le cours de notre civilisation qui continue à se ruer derrière toujours plus de techniques, d'économie, d'industrie, etc. Alors qu'aujourd'hui, il faudrait réguler tout ça, et que le problème de la croissance aujourd'hui signifie non pas l'alternative de la décroissance, mais signifie qu'il faut savoir ce qui doit décroître et ce qui doit croître. Et je crois que c'est assez clair de savoir ce qui doit décroître et de ce qui doit croître.
Alors justement, on va continuer la discussion dans un instant. Juste encore un tout petit mot rapidement sur cette révolution culturelle en Californie, là dans les années 60. Vous dites finalement, ça a été la matrice de toutes les révolutions qui ont suivi, et particulièrement celle des étudiants, en France par exemple, en mai 68. Est-ce que vous voyez aujourd'hui dans les grèves scolaires pour le climat des élèves actuels quelque chose qui se rapproche de ce qui s'est passé en Californie à la fin des années 60?
Pour le moment, non. Mais je n'exclus pas que ça puisse se développer quelque chose de plus puissant à partir de ces nouveaux mouvements de jeunes qui se sont déclenchés sur le climat. en France et dans le monde, et la présence de Greta actuellement au tribunal
à New York,
aux États-Unis, aux Nations Unies, est quelque chose d'important et de significatif. Je pense que cette mobilisation de la jeunesse peut être pleine de promesses, mais je dois dire que si le réchauffement climatique est effectivement un problème très angoissant, c'est un problème qui fait partie d'un problème beaucoup plus vaste. Car, par exemple, prenez des villes comme Pékin qui sont totalement polluées, prenez des déforestations massives comme celles qu'on provoque même intentionnellement en Amazonie. Le problème est tout à fait multiple. Et le problème, finalement, c'est d'intégrer le réchauffement climatique dans l'idée de sauver notre biosphère, c'est-à-dire nous-mêmes.
Allez, Edgar Morin, on poursuit la discussion ensemble et avec les auditeurs de France Inter, 01 45 24 7000, et donc ce livre, Les souvenirs viennent à ma rencontre, qui paraît chez Fayard.
France Inter. La Terre au carré.
Et justement, Camille Cronier, vous êtes toujours à Monaco, où sont réunis les scientifiques du GIEC avant la publication, donc demain, de ce rapport sur les océans et la cryosphère. Et vous nous racontez aujourd'hui les coulisses des négociations.
Oui, j'ai rencontré les participants tout au long des discussions depuis vendredi parce qu'il a fallu des heures, des jours pour que les auteurs et les délégations présentes, plus de 350 personnes au total, se mettent d'accord sur le résumé du rapport. Une trentaine de pages cruciales, Mathieu. Elles seront utilisées par les dirigeants du monde entier notamment, car ils ne liront pas le rapport en intégralité qui fait lui presque 1500 pages, donc on leur pardonne.
Oui.
Alors ça se passe, ces négociations, loin de tout élément naturel, dans l'auditorium du centre de congrès de Monaco. Une grande salle au sous-sol, sans fenêtre et pleine de lumière bleu foncé, loin des journalistes aussi, personne de l'extérieur n'a le droit d'entrer. Du coup, c'est au café d'en face que l'un des 104 auteurs, Jean-Pierre Gattuso, m'explique ce qu'ils font là-dedans.
Le texte est affiché sur un grand écran. On passe le document ligne à ligne et les délégués, les représentants des gouvernements doivent approuver tous les formulations qui sont là.
Alors autant vous dire que tout est passé au crible.
C'est un travail extrêmement méticuleux.
Là, c'est Samuel Morin qui parle, auteur français lui aussi.
On rassemble deux univers pour lesquels chaque mot compte. En science, chaque mot compte. Dans la sphère de l'action publique, chaque mot compte aussi. Et donc les mots comptent double.
Et oui, pas d'erreur possible. Et il faut rester fidèle, bien sûr, au contenu du rapport. Il s'agit du document final, donc attendu partout. Ils le savent aussi, comme le docteur Hélène Jacot-Descombes, spécialiste du changement climatique.
On est tous très conscients de l'importance que ça a et du fait que la science est maintenant vraiment utilisée par beaucoup de monde au niveau des décideurs et voire même les lycéens qui manifestent dans la rue, qui se disent il faut écouter les scientifiques. Donc on sent vraiment cette pression-là. Et c'est pour ça que c'est très 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 important et qu'il faut vraiment faire attention à tous les détails.
Sauf que d'autres saturent de ces heures enfermées à chaque fois dans les réunions internationales. La chef de la délégation belge, par exemple, au milieu de la nuit.
Pour moi, c'est contre-productif. Il y a des gens qui savent rester debout des heures et des heures parce qu'ils sont tellement motivés, c'est de l'adrénaline. Mais approuver 30, 35, 40 pages, ligne par ligne, en 3-4 jours, c'est très difficile, ce n'est pas faisable.
Vous êtes contente d'être ici ou vous préféreriez être ailleurs?
Pour le moment, je préfère être ailleurs. Je trouve que c'est très, très, très lourd.
Et oui, des heures sans dormir. Écoutez bien, la dernière ligne droite s'est terminée à 11h ce matin, après 27 heures d'affilée.
On voit des gens, y compris parmi les délégués, bien sûr, qui piquent du nez, qui s'endorment un peu. Il y a quelques photos que j'ai prises de collègues en train de dormir sur le canapé.
Alors du coup, pour tenir et rester concentré, c'est évidemment très important. Chacun a son petit truc.
On a acheté des bananes, on a acheté des fruits secs, du chocolat pour tenir pendant les sessions parce qu'il faut rester en alerte.
J'en ai grillé avec des verres McDo là tout à l'heure.
Oui, il est pas loin, il est ouvert tout le temps et bon, on est
toujours. Donc le GIEC prend McDo quoi.
Dans les cas d'urgence. Voilà.
Alors, je précise que ce n'est pas Hélène Jacot-Descombes que j'ai vu commettre le sacrilège, mais un membre de la délégation péruvienne, je balance.
Oui.
Il y a aussi des Japonais qui m'ont avoué piquer du pain le matin à l'hôtel. La chercheuse, elle, a autre chose pour se détendre.
On joue sur des applis aussi, le temps de déconnecter, parce que sinon on est focalisé et on est coincé. Donc non, faut décoincer.
Vous jouez à quoi, vous, par exemple?
Ça s'appelle Einstein Riddle.
Vous jouez quand même à une appli Einstein, quoi. Vous n'êtes pas scientifique pour rien.
On se refait pas. Sinon, je regarde des photos de chats sur Instagram aussi. Donc ça repose. Voilà.
Ah là là, même les membres du GIEC sont comme tout le monde, dis donc. Et à ceux alors qui seraient outrés et que j'entends dire d'ici, ah ben bravo, c'est du sérieux. Eh ben je les mets au défi de venir faire le travail titanesque accompli, d'autant que cette session d'approbation vient juste clôturer des années de recherche.
C'est vrai que le grand public a du mal à imaginer ce qui se passe ici, dans cet auditorium.
Mais ça vaut le coup tout ça.
Ah oui, ça vaut le coup. Vous savez, pour un scientifique, de vouloir... alerter les décideurs, le grand public sur les enjeux liés à l'océan et la cryosphère, et d'être comme ça à la frontière entre la science et les décisions politiques, c'est vraiment un endroit qu'il est très agréable de fréquenter, en fait. On a l'impression de faire quelque chose d'utile.
Attention quand même au lapsus révélateur. Tendez l'oreille, c'était hier soir. Là, vous repartez pour combien d'heures ?
C'est une très bonne question. Parce que comme c'est le dernier jour, on va rester là jusqu'à ce qu'on soit fini.
Alors, pas eux, hein. C'est pas eux qui vont être finis. C'est la réunion qui est donc terminée maintenant. Ils sont toujours vivants, rassurez-vous. Et pour le texte et le contenu de ce texte approuvé, eh bien, il va falloir encore patienter un petit peu. Il sera rendu public demain.
Merci beaucoup Camille Cronier, et vous aussi vous avez fait nuit blanche évidemment.
Quasi.
Et sans McDo pour pouvoir interviewer donc tous les membres du GIEC qui sont en train de synthétiser ce nouveau rapport qui sera donc rendu demain, Edgar Morin. Et on se retrouvera demain, évidemment. Nouveau rapport, donc, Edgar Morin sur le climat, qui s'annonce d'ailleurs, d'après ce qu'on en sait déjà, terrifiant et particulièrement alarmant sur l'état, justement, des océans et de la cryosphère. Qu'est-ce qui pourrait, finalement, selon vous, véritablement alerter les dirigeants et la société aussi des enjeux, là, de la biodiversité ?
Ben, vous savez, c'est la difficulté d'une prise de conscience collective d'une idée qui au départ semble déviante et bizarre dans le cadre d'une civilisation qui est absolument habituée à séparer l'homme de la nature et à ne pas comprendre les liens, difficilement comprendre les liens entre ce qui nous développe notre économie et notre société, produit en même temps le développement des dangers qui nous menacent. Alors, il n'y a que le prêche, la prise de conscience, les consommateurs par rapport à leurs aliments, par rapport à la pollution de la ville, par rapport aux maladies que donnent les pollutions dans les campagnes par les pesticides. C'est un ensemble. Et donc, si vous voulez, c'est un problème. Si les politiques considèrent ce problème comme secondaire, évidemment, ils ne jouent pas en faveur de cette prise de conscience. Il y a pas mal d'associations qui jouent en faveur, mais elles sont dispersées, ne sont pas assez nombreuses. Et puis, il faut penser qu'il y a d'énormes intérêts économiques pour nous occulter le problème, parce qu'ils ne croient que, voilà, que les intérêts immédiats. C'est pas un hasard si, par exemple, le président Trump, pour que continue le pétrole, l'utilisation massive de ce pétrole qui pollue, le refuse d'entériner les conclusions de la conférence de Paris. Donc, nous avons des forces politiques et surtout économiques énormes. Ils croient avoir leur intérêt immédiat sans savoir qu'ils sont suicidaires à long terme.
Edgar Morin, il y a beaucoup d'appels pour vous au standard de France Inter. On se retrouve dans un instant avec les auditeurs de La Terre au Carré.
So le un lol ning con le un lol ning pan un lol bai di un yi when ingen me me lol len when ingen me me nguesa when ingen me me lol len di un yi pa un yin la when ubi so le un e un lol nem con un lol bai when u piso le un quei nin con e veni ni pan binen el bai di un ye when mi en me me lol a weta mi en me me nguesa when mi en me me lol a di un ye au ye la. Thank you.
so le un engel con le un lol nin con pinen el bai when u bichel le mentil na we le me so va we when mengues di un ye when di en me melon ay we tam ni en me menguesa when di en me melon ay so por un me solo ni me
Roseau avec Blic Bassi, c'était 4.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Edgar Morin, beaucoup d'auditeurs de La Terre au carré ont envie de parler environnement, écologie avec vous au standard au 01 45 24 7000. Et Patrice est en ligne justement pour démarrer la conversation. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue Edgar Morin, écoute votre question.
Merci, j'en suis ravi. De plus en plus de citoyens se mobilisent en faveur de l'écologie. Et je voudrais savoir comment Edgar Morin analyse le décalage de classe sociale en quête d'information et d'engagement. On a souvent beaucoup de déplorations, peu d'action, et je me demande ce qu'il faudrait pour niveler ce décalage. Je le vois par exemple dans mon département où il y a beaucoup de citoyens qui sont dans un jean-foutisme total, il faut le dire, dans un état de résignation par rapport à la problématique qui nous occupe, en l'occurrence CIGEO et BUR. Et puis vous avez des gens qui se démènent pour organiser les manifestations, comme celle à venir à Nancy samedi prochain, d'ailleurs à laquelle je vous convie, M. Morin, parce que c'est un sujet d'extrême gravité, et qui rejoint la problématique que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la collusion des lobbies et des politiciens et les détournements de la science. Voilà.
Alors, Edgar Morin, trop de déplorations, peu d'action, nous dit Patrice. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ?
Disons qu'il n'y a pas assez d'action.
Non ? Oui, c'est ça.
C'est évident que nous ne sommes pas à la hauteur de l'ampleur du problème qui se pose. Il est évident que, disons, du point de vue politique, c'est très défaillant. Je dirais même que les partis qui se prétendent écologiques ne se haussent pas eux-mêmes à l'ampleur du problème planétaire et préfèrent traiter de façon séparée des problèmes très importants, mais très différents les uns des autres, au lieu de les relier entre eux. Donc, est-ce que la prise de conscience qui a commencé, pas seulement sur une partie de la jeunesse, mais dans d'autres catégories de la population, est-ce qu'elle va s'amplifier parce que les forces répressives qui vont parler d'autre chose, qui vont parler que de croissance, qui vont parler que des problèmes économiques, etc., ces forces régressives très puissantes, elles-mêmes, se renforcent. Parce que la science, vous savez, au début, les physiciens n'avaient pas compris les problèmes écologiques. Ils avaient signé un appel qu'on appelle de Nuremberg contre la conscience écologique, alors que vraiment, ce sont les géographes et les biologistes qui ont pris conscience. Même dans les milieux scientifiques, cette conscience n'est pas répandue. Mmh. Et donc, on essaye de la créer, de développer, mais c'est une bataille incertaine et nous ne savons pas qui gagnera.
Edgar Morin, Lise nous écrit sur franceinter.fr et nous dit « Il y a 27 ans, une enfant de 12 ans, Severn Suzuki, avait parlé lors du sommet de Rio, de l'ONU, en 92. Beaucoup d'émotions, puis plus rien. Pourquoi, demande-t-elle, ces grands discours de la jeunesse, comme Greta aujourd'hui, ne sont-ils jamais finalement entendus ?»
Ils commencent à être un peu entendus. Mais je veux dire que si je réfléchis entre 1970 et 2020 où nous arrivons, la lenteur extraordinaire et la négation même du problème dans beaucoup de milieux intellectuels et autres, tout ceci ont ralenti la prise de conscience. Donc nous avons en nous quelque chose de très profond qui est ancré, c'est cette idée que l'humanité était quelque chose de créé à l'image de Dieu, comme disait la Bible, quelque chose qui va réussir à avoir l'immortalité, comme nous le dit Saint Paul, qui est doté d'esprit alors que le monde animal est purement de mécanique. Toutes toutes ces choses sont ancrées en nous et que, disons, le but de la transcivilisation, c'est de conquérir la nature. Alors que le but de la civilisation, c'est au contraire de nous d'avoir une relation cohérente avec cette nature qui nous, en même temps, qui est notre enveloppe vitale. Et c'est ça qui, à mon avis, manque. Donc, il y a un problème d'éducation qui n'est pas fait. Est-ce qu'on enseigne systématiquement l'écologie dans nos écoles? Non. Est-ce qu'il y a une chaire d'écologie à l'université? Non. Est-ce que vraiment, il y a eu un ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, il a été obligé de partir. Est-ce que donc la politique a été absolument consciente de ça? Non. Donc vous voyez quand même, les obstacles sont énormes, et c'est très bien qu'il y a sans arrêt quand même une tentative pour la prise de conscience de nature vitale.
Gilles, vous êtes en ligne avec nous, bienvenue dans la Terre au Carré, et votre question à Edgar Morin. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
J'ai rencontré Henri Bermora il y a une dizaine d'années à Lyon, et il soutenait qu'il n'y avait pas de facteur démographique dans la formation de tous les problèmes qui nous préoccupent, là actuellement, donc réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, déforestation, artificialisation des sols. Et je voulais savoir s'il a évolué sur cette question, ou est-ce qu'il continue à penser que le nombre que nous sommes ne joue pas.
Alors, tout le monde n'est pas d'accord d'ailleurs sur cette question de la démographie, Edgar Morin, sur le rôle de la démographie dans les problèmes aujourd'hui sur la planète. Et donc Gilles vous demandait si vous étiez toujours sur cette position de considérer qu'il n'y avait pas de problème démographique.
C'est pas qu'il n'y a pas de problème démographique, mais il ne joue pas comme une menace. Nous avons vu que dans tous les pays qui se sont un peu développés économiquement, il y a l'arrêt et la baisse démographique. Nous avons vu que, par exemple, en Chine, ils ont institué d'une façon très reste très brutale, ils ont obligé 1 milliard de Chinois à n'avoir qu'un seul enfant. Autrement dit, c'est vrai qu'il y a une croissance démographique en Afrique, mais actuellement, il y aurait la possibilité de nourrir toute la planète si on développait une autre type d'agriculture et avec on utilisait les mers, si les mers étaient moins populées, les algues, etc. À mon avis, il y a eu un péril démographique en grande partie imaginaire. C'est vrai que la population du globe est augmentée, mais actuellement, ce n'est pas ça qui est la menace principale. Et je pense que, au contraire, nous avons affaire dans les pays européens à une baisse démographique catastrophique que viennent compenser en partie les migrations extérieures.
Olivier nous dit sur franceinter.fr, je relis avec un immense intérêt le livre « Pour sortir du XXe siècle » écrit en 1981, que j'ai dévoré alors que je n'avais que 19 ans. Je réalise, dit Olivier en relisant cet ouvrage, à quel point Edgar Morin est avant tout un visionnaire, car ce qu'il écrit dans ce livre reflète exactement ce que nous vivons aujourd'hui. D'ailleurs, on a retrouvé des papiers que vous aviez fait pour Le Monde diplomatique, par exemple, il y a plus de 30 ans de cela, sur la question environnementale. On pourrait les publier exactement mot pour mot aujourd'hui. Rien n'a changé finalement. Et ça, c'est un peu désespérant quand même, non ?
Vous savez, j'ai eu tort d'avoir eu trop tôt raison. Et dans le fond, vous savez, au début, quand les précurseurs ou les prophètes ou les visionnaires sont ridiculisés, parce que ceux qui disent contredisent ce que pensent des gens dans l'immédiat qui sont dans la satisfaction béate. Et donc, si vous voulez, il faut le temps. Mais maintenant que, si vous voulez, ce que j'avais annoncé se réalise, heureusement, vous êtes un des rares à m'en rendre l'hommage, si j'ose dire. Mais c'est vrai que, bon, ça devient une banalité. Donc, je pense qu'effectivement, il faut être attentif à tous les signaux qui annoncent des choses en devenir, et que ils sont masqués par la présence de l'immédiat, comme si l'immédiat était éternel, alors qu'une chose que nous savons, c'est que sans cesse tout se transforme.
Merci beaucoup Edgar Morin d'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré. On peut lire donc « Les souvenirs viennent à ma rencontre ». Ces souvenirs, ce sont les vôtres, publiés aux éditions Fayard. Merci à vous. Dans un instant, juste après les infos, vos solutions pour la planète, avec aujourd'hui Cédric, un auditeur qui nous parlera d'une fresque du climat qu'il a créée.
France Inter. La Terre au carré.
Au menu de cette deuxième demi-heure ensemble, un nouveau reportage de notre série consacrée cette semaine à l'écologie dans les banlieues. Nous irons à Montreuil aujourd'hui. Et puis notre invité découverte travaille pour la Ligue de protection des oiseaux et il va nous parler de la disparition inéluctable de la pigrièche à poitrine rose. Mais pour le moment, vos solutions pour la planète. Et nous sommes en ligne avec vous, Cédric. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
On va parler du GIEC et du climat, évidemment. On en parle déjà toute cette semaine et le sujet, évidemment, vous intéresse. Vous êtes ingénieur, c'est ça la base ?
Oui, tout à fait. Je suis ingénieur et je me suis spécialisé il y a une dizaine d'années sur le changement climatique et j'ai fait beaucoup de vulgarisation sur
voilà,
ce sujet.
Au point d'imaginer et de créer une association, la Fresque du Climat. Alors justement, pour essayer de faire comprendre au plus grand nombre les enjeux qu'on vient d'évoquer là avec Edgar Morin.
Exactement. Le but, c'est de diffuser la connaissance scientifique sur le climat. J'ai créé en fait il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, un outil pédagogique qui est sous la forme d'un jeu de cartes. En fait, c'est un peu comme si vous mettiez le rapport du GIEC dans 42 cartes que les participants vont devoir remettre dans l'ordre des causes et des effets.
Ouais.
Donc ces cartes représentent des composantes du changement climatique. On a les activités humaines qui utilisent des énergies fossiles, ça fait du CO2 et du coup ça augmente l'effet de serre, et ainsi de suite jusqu'à des conséquences sur les sécheresses, la famine et puis des conflits armés en bout de chaîne. Et donc, on est autour d'une table à 5-6 personnes et on se concerte pour lire les cartes et reconstituer toutes les chaînes de conséquences entre ces différents éléments. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement pédagogique et de fait, ça marche assez bien.
Oui, alors dites donc Cédric, c'était quand même très osé, j'allais dire, d'imaginer un jeu avec un rapport du GIEC, parce que franchement, il n'y a plus de rôle dans la vie qu'un rapport du GIEC pour s'amuser, non ?
Oui, alors c'est peut-être justement pour ça qu'il fallait une approche... qui soit à la portée de tous et qui fasse plutôt plaisir. Alors on a une partie un peu intellectuelle au début que je vous ai décrite.
Ouais.
Dans la foulée, on demande aux participants de faire quelque chose de joli sur cette fresque. Donc ils ont 2 mètres carrés de papier devant eux avec toutes les cartes dessus. Et on leur demande de la décorer, donc de mettre des couleurs, de choisir un titre, de faire des dessins. Et cette phase d'expression est quelque chose de très important parce que déjà ça permet de s'approprier bien ce qu'on a fait et ça permet d'exprimer les choses également à travers les dessins et le titre qu'on choisit. C'est une façon aussi de dire que en général ce qui se passe quand les gens jouent c'est qu'ils comprennent que le changement climatique c'est beaucoup plus grave que ce qu'ils imaginaient, donc c'est des mauvaises nouvelles, et cette phase créative permet d'exprimer tout ça. Et puis en troisième partie on passe dans un mode de débrief, en fait on va débattre de ce qu'on a appris et de ce qu'on pense important à faire au niveau des solutions maintenant.
Ouais, donc c'était vraiment ambitieux parce que le pari, effectivement, on l'a compris, hein, c'est de faire comprendre la complexité du changement climatique et de prendre conscience de cette urgence à agir. Et alors pour ça, vous faites appel à l'intelligence collective des joueurs, finalement.
Oui, c'est ça. En fait, le fait d'être à plusieurs autour de la table, ça fait qu'on va hésiter, on va se contredire, on va essayer de se convaincre, on va formuler des arguments. Mmh. Et tout ça, ça contribue de la pédagogie.
Alors ce jeu est imaginé pour des gens de quel âge, Cédric ?
Alors il y a tous les publics, ça va du comité exécutif d'une grande multinationale jusqu'à des classes de CE2. Il y a une version enfant de 9 à 14 ans et puis ensuite une version adulte pour les autres. C'est, ouais, c'est un public vraiment très large.
Bon, alors sincèrement, donc vous avez eu tous ces publics, hein, qui ont joué à votre jeu, cette fresque du climat. Est-ce que les plus jeunes s'amusent vraiment ? Est-ce qu'ils arrivent à trouver quelque chose de divertissant, à discuter des enjeux sombres de l'avenir climatique ?
Oui, ça marche très bien avec les jeunes et même avec les enfants. Mmh. J'étais assez surpris, moi j'avais peur qu'ils soient complètement traumatisés, qu'ils ne dorment pas la nuit.
Ouais.
Je pense que le futur, c'est tellement lointain pour eux que ça les touche pas tant que ça. Mmh. Et à l'arrivée, ils jouent comme les autres. Ils se prennent au jeu. À la fin, on a du mal à les faire lâcher, hein, tellement ils sont pris par le jeu et puis par les envies de finir leur dessin.
Mmh.
Et moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'un jour, j'ai vu une équipe comme ça, de jeunes, ils avaient choisi comme titre La fin du monde. Mais ils n'étaient pas traumatisés du tout, ils étaient même morts de rire. Et je me suis dit, ok, bon, ben, ils sont à peu près conscients de ce qui se passe. Simplement, c'est tellement lointain pour eux que ça se passe bien.
Bon, et toutes les données sont issues des rapports du GIEC, hein, vous confirmez ?
Voilà, exactement. C'est des infos qui sont toutes issues du GIEC et qui sont très très factuelles. Donc on parle des causes et des conséquences. Mmh. La partie qui consiste à parler des solutions, qui est beaucoup plus d'ordre personnel ou politique, elle est pas dans les cartes. C'est une partie qui on aborde ensuite plus tard dans le débrief, dans le débat.
Ouais. Et on peut le trouver où alors ce jeu sous forme de cartes?
Alors on peut le trouver sur le site internet de l'association, mmh. Donc c'est fresquesduclimat.org, et on a la possibilité soit de télécharger, soit de l'acheter en ligne, soit de se le procurer au cours d'un événement auquel on participe.
Voilà, donc c'est ce jeu pour comprendre justement les enjeux dont nous parlons évidemment beaucoup, et à l'occasion encore demain, de ce nouveau rapport qui sera dévoilé au public et qui pourra certainement inspirer une nouvelle édition de ce jeu. Merci beaucoup Cédric d'être venu nous en parler aujourd'hui dans la Terre au Carré. Et puis si vous aussi vous êtes de votre côté à l'origine d'une initiative dont vous souhaitez nous entretenir, passez par le site de l'émission. Bonjour Antoine Lee.
Bonjour Mathieu.
On vous retrouve aujourd'hui pour la suite de votre série de reportages consacrée à l'écologie en banlieue. Et vous nous parlez aujourd'hui de l'association Le Sens de l'Humus à Montreuil en Seine-Saint-Denis.
Oui, cette association est née il y a 13 ans. Son but, c'est de permettre à une population défavorisée de renouer avec la nature. Cela peut prendre plusieurs formes, des ateliers de jardinage, des visites de leur jardin solidaire ou encore la mise en place de composteurs au pied des immeubles. Solène Guédas fait partie de l'équipe du Sens de l'Humus. Visite guidée avec elle dans le nord de Montreuil.
On est au pied d'un grand immeuble qui est un des immeubles qui compose ce quartier. C'est un quartier d'assez grandes tours HLM et d'installations sportives. Là, je vous montre les trois composteurs installés par le Sens de l'Humus. Et donc, ces composteurs sont gérés par des habitants motivés, par un groupe habitant.
C'est pas forcément évident de voir des composts au pied d'un immeuble HLM.
Ça déconstruit un petit peu l'image que les pauvres jettent dehors. Au contraire, ça démontre que finalement, ce sont dans ces quartiers qu'il y a une assez grande vigilance déjà au devenir des matières qui finissent à la poubelle, mais surtout une grande vigilance à créer de la vie, créer des moments de sociabilité autour de certaines pratiques.
Là, on peut ouvrir le couvercle de ce compost. Là, on voit quoi? Alors, c'est quoi dedans, là?
Donc là, dans ce bac, c'est ce qu'on appelle une réserve de matière sèche. Donc dedans, il y a des petits branchages, des copeaux de bois, des feuilles mortes. C'est tout ce qu'on appelle la matière carbonée.
Attendez, je vais vous reposer parce que le couvercle est un peu lourd.
Et bien là, je vous propose qu'on aille au jardin de l'association.
C'est loin d'ici?
C'est à quelques centaines de mètres, à vol d'oiseau, à pied. C'est à une dizaine de minutes.
Alors, qu'est-ce que vous cultivez ici dans le jardin du Sens de l'Humus?
En ce moment, par exemple, c'est la saison des dahlias qu'on pourra aller voir. Aussi, des parties de potager, des plantes aromatiques qui peuvent pousser dans nos régions montreuilloises.
Quel type de public vous recevez ici?
Le public qu'on reçoit est notamment les matinées, pendant 3 matinées de jardin solidaire. C'est un public en situation d'exclusion. On est financé par le département pour accueillir des personnes bénéficiaires du RSA ou des minima sociaux. Donc ça peut être aussi des travailleurs handicapés, des personnes récemment immigrées, s'insérant en France. Et ils se sentent un peu inutiles, en fait. On leur fait comprendre qu'ils sont un peu inutiles puisqu'ils ne travaillent pas. Tandis que au gré des matinées ici, de la même manière qu'on pouvait avoir de la colère et elle se transforme plutôt en énergie pour le jardin, et bah cette sensation d'inutilité, à force d'apprendre des plantes, à force de désherber, à force de faire tout un tas d'activités, bah elle devient source de connaissances et d'envie de se sentir utile pour le jardin, quoi. Alors là, on passe le long de notre allée principale sur laquelle poussent des pêches, ce qui est normalement un fruitier qui ne pousse que dans le sud.
Qu'est-ce que ces activités-là leur apportent par rapport à leur réalité quotidienne?
C'est des personnes qui, au quotidien, rencontrent déjà des difficultés de mise à l'écart par rapport aux gens, au regard des gens, à leurs différences. Ça peut être pour certains physiques, vestimentaires, parfois des difficultés à s'exprimer, à s'intégrer socialement. Donc pour beaucoup, c'est vraiment une fatigue psychologique d'un monde qu'ils ne comprennent pas trop. Et ici, justement, il y a cette sensation d'entraide et de bienveillance chaque matinée où on travaille tous ensemble et où on est dans un lieu qui fait du bien, un lieu qui soigne. Il y a les oiseaux et le vent et le jardin, on en prend soin comme il prend soin de nous. à Montreuil, à deux pas pour certains, ou à quelques kilomètres de chez eux, il existe un oasis vert, un sanctuaire de biodiversité, et qu'il est accessible, et qu'il est fait justement pour accepter toute une diversité de personnes.
Diversité dans les plantes et diversité dans les personnes.
Ouais, complètement. Ben, en fait, nous, le sens de l'humus, on est vraiment nés de cette idée que l'uniformisation, la monoculture, toutes ces choses, je le dis en rigolant, mais c'est un petit peu pareil. Dans le sens où on a normalisé les cultures autant que les fermes, autant que tout, et de la même manière, on a normalisé les gens. Ces gens-là, moi, dans mon quotidien, si je ne travaillais pas avec eux, je ne les verrais pas. Ils sont invisibles dans notre société. Où ils sont, tous ces gens, en fait ?
Et comme d'habitude, Antoine Lille, les photos sont à retrouver sur la page Facebook de La Terre au Carré pour tout voir de votre reportage.
Et si vous voulez visiter leur jardin solidaire ou participer à leur atelier de cuisine anti-gaspillage, rendez-vous sur notre page, on fait le lien.
On vous retrouve demain avec une nouvelle association, les Fourmis Vertes. Dans un instant, notre invité découverte va nous parler de la disparition annoncée de la pigrièche à poitrine rose. Ce sera juste après Stéphane Echer, Si tu veux.
Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle. Ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible. Que je puisse accepter la brûlure et le froid, sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair. Ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères. De relancer les comment, les pourquoi qui font perdre patience, qui font perdre la foi. Inutile de m'attendre, une impatiente oreille, le goût de toi me manque, mais rien ne se réveille. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, comme sec sans mes bras. Si tu veux que je chante, si tu veux que je chante, les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sans mes bras.
Extrait de son nouvel album qui sort, premier extrait si tu veux, Stéphane Echer, album d'ailleurs dont vous parlera Rebecca Manzoni. Jeudi matin, vous pourrez en entendre les premiers extraits dans Pop & Co à 7h25.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard.
Voilà le chant de la pigrièche à poitrine rose, soyons précis. Et pour en parler, nous sommes en duplex des studios de France Bleu Hérault à Montpellier avec vous. Denis Rey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de programme à la ILPO, Hérault. Est-ce que vous avez reconnu le chant de la pigrièche à poitrine rose? Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, par contre, c'est pas une espèce qui chante beaucoup. On la capte surtout avec ses cris d'alarme, mais c'est pas une espèce qui chante beaucoup.
Ouais. Et comment on l'explique d'ailleurs ça par rapport à d'autres oiseaux, cette variation dans les chants?
En fait, c'est une espèce qui n'a pas besoin de ça a priori pour attirer les femelles, parce que c'est les mâles qui chantent, hein, principalement pour attirer les femelles en règle générale. Et cette espèce, elle se dresse souvent au sommet des arbres. Et elle émet des cris d'alarme comme ça, mais c'est pas quelque chose nous qu'on utilise beaucoup pour la capter quand on fait du suivi, parce que c'est assez difficile à capter. Là, vous avez vraiment un chant un chant très fort, très important, mais nous, c'est beaucoup plus tenu sur le terrain.
Alors, Denis Rey, on est ensemble pour évoquer cet oiseau qui sera, paraît-il, le premier vertébré à disparaître en France métropolitaine au XXIe siècle. C'est le constat que vous dressez sur cet oiseau, et cette disparition risque même de se faire extrêmement rapidement. On parle de l'année prochaine. Est-ce que vous confirmez là aussi l'information ?
Alors oui, j'ai volontairement été un peu loin dans les titres que j'ai donnés à cet aspect de communication, mais en l'occurrence, on n'est pas sûr que cette espèce va vraiment disparaître l'an prochain ou l'année d'après, mais globalement, elle est condamnée. Elle est condamnée déjà, on le sait déjà depuis à peu près 20 ans, on le sait, et c'est bien dommage. Mais c'est sûr qu'elle est condamnée, cette espèce, à terme, étant donné que la population s'écroule un peu, non seulement en France, mais dans tous les pays frontaliers qui auraient pu alimenter la France en individu. Mmh.
Quelle est l'espérance de vie d'ailleurs de cet oiseau ?
Actuellement, on avait un individu bagué qui dépassait les 8 ans, mais globalement, on est aux alentours de 7 ans, 6 à 8 ans, je dirais. Mmh.
Et alors là, il ne reste plus qu'un seul couple dans l'Hérault en particulier, c'est ça ? C'est le seul endroit en France où on peut encore en trouver ?
Alors, cette année, en 2019, nous n'avons observé qu'un seul couple. Ça ne veut pas dire qu'il reste qu'un seul couple, mais en tout cas, nous, on a pu en observer qu'un seul, qui a, pour le coup, échoué sa reproduction. Mm-hmm. Et ça fait suite à une longue dégringolade qu'on enregistre depuis 20 ans. On pense, en effet, que c'est le seul couple qu'il y avait en France, parce que c'est une espèce qu'on dit très philopatrique, et donc qui revient sur son lieu de naissance. Et c'est assez précis, c'est parfois même à l'arbre près. Ce qui explique que pour nous, c'est un peu plus facile de la suivre, parce qu'il nous suffit de chercher dans les endroits où elle a été historiquement. On peut remonter un peu plus loin, et puis on est à peu près sûr de trouver tous les individus, quoi. Et c'est rare qu'on tombe à côté.
Ouais. Alors, Denis Rey, pourquoi l'échec de cette reproduction dans ce couple de pigrièche à poitrine rose en particulier, pourquoi ça n'a pas fonctionné ?
Bon, alors oui, il y a eu un échec, mais il est certes anecdotique, hein, pour la population. Mais alors, cet échec précisément, nous on s'en est rendu compte à peu près au 1er juillet. L'espèce était arrivée fin mai, c'était déjà une date très tardive, aux alentours du 20 mai, alors que d'habitude elles arrivent plutôt fin avril à début mai. Donc déjà on s'inquiétait avant. Et puis donc il y a ce couple qui est arrivé, on a commencé à le suivre, ils ont commencé leur production, à pondre, etc., à couver. Et puis on a remarqué que du jour au lendemain, il y avait la femelle le soir. Et puis il n'y avait plus la femelle le lendemain. On voyait le mâle qui alarmait au niveau du nid, voire même d'autres oiseaux, des moineaux qui sont rentrés dans le nid. Donc ça, c'était typique d'un comportement où le nid avait été abandonné, parce que c'est une pigrièche, pour le coup, qui est très querelleuse et qui laisse vraiment pas aucun autre oiseau s'approcher du nid en période de reproduction. Ouais. Donc c'était une indication pour nous que ça avait échoué.
Alors, Denis Rey, vous le disiez tout à l'heure, donc cet oiseau est philopatrique, hein, c'est ça le terme ?
Voilà.
Ouais,
voilà.
Donc il est capable de retrouver l'arbre sur lequel il est né, ce qui est absolument incroyable, d'autant que c'est un oiseau migrateur et qui est capable de parcourir plus de 10 000 km par an, c'est ça ? Donc au cours d'une vie, il le fait plusieurs fois.
C'est même plus que ça.
Ouais.
Ouais, c'est 10 000 km deux fois par an.
Deux fois par an.
À l'aller et au retour.
Ouais. Et donc, il est capable de retourner sur son arbre.
Alors, on a remarqué qu'il retournait souvent sur les mêmes arbres, mais globalement c'est sur la même zone, parce que ça a été étudié assez précisément. C'est pas tout le temps les mêmes individus qui reviennent sur le même arbre.
Oui.
Mais en tout cas, globalement, tous les individus reviennent sur la même zone. Ça peut être une zone très très petite, hein, d'à peine quelques kilomètres carrés. Et on a remarqué, nous, par exemple, 16 ans plus tard, que dans une zone où vous avez 50 arbres, elle pourrait choisir les 49 autres, mais elle va aller sur l'arbre en question, le seul qui a été occupé il y a 16 ans.
Ouais. Alors justement, donc, on a une question d'auditeur, Patrick, qui connaît justement cet aspect-là de cet oiseau, et qui demande comment est-ce qu'il fait pour se repérer précisément et retrouver son arbre.
Ah ben ça, justement, c'est une question que j'aurais du mal à répondre. Ça fait partie des éléments sur lesquels on a peu de compréhension, mais on imagine qu'au-delà de que ce soit un arbre de reproduction, puisque si c'est 16 ans plus tard, évidemment, c'est pas du tout les mêmes individus qui sont nés sur cet arbre, on imagine qu'il y a des caractéristiques que nous, on maîtrise pas. C'est-à-dire que nous, on sait qu'elle va choisir un arbre très haut, avec une bonne frondaison, c'est-à-dire beaucoup de feuilles au sommet pour pouvoir camoufler le nid. Et dans son domaine vital, il faudra qu'il y ait à la fois des prairies ou des friches et des zones nues où elle peut facilement apercevoir ses proies. Ça, c'est ce qu'on sait. Après, pourquoi elle va choisir cet arbre-là plutôt qu'un autre, je vous avoue que ça, on maîtrise pas encore.
Alors, Denis Rey, il y a plein de questions d'auditeurs, hein, qui se passionnent pour cette pigrièche. Alors, François nous dit, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les vols des migrateurs et les éclosions d'insectes ou le débourrement de la végétation, ce qui pénalise forcément, dit-il, les oiseaux migrateurs ? Est-ce que c'est le cas ?
Alors ça, c'est quelque chose qui a été pas mal étudié sur d'autres espèces. Ça a même été étudié sur d'autres pigrièches, la pigrièche à tête rousse. Et c'est vrai que ça a été démontré qu'il y avait des décalages avec les changements climatiques, notamment entre les pics d'éclosion et les pics de proies disponibles, en fait.
Oui.
Mais globalement, c'est certainement pas chez nous. C'est peut-être une cause, mais c'est une cause aggravante parmi le faisceau de causes qui aboutit à sa disparition.
Ouais. Suzanne, toujours sur le site de la Terre au Carré, demande est-ce que la pigrièche à poitrine rose pourrait se croiser avec une autre pigrièche ? Parce qu'il y en a quatre espèces différentes, hein, c'est ça ?
Oui. Tout à fait. Ça c'est quelque chose. Non, c'est le principe d'une espèce. Une espèce, c'est une communauté qui pour le coup a la capacité de se reproduire entre elles. Et si on a différencié ces espèces, c'est justement parce qu'elles n'avaient pas cette capacité-là. Mmh. Et en l'occurrence, on a eu un exemple récemment. Je crois que c'était il y a 2 ans. Au niveau de la plaine en dessous des Vosges là,
oui.
Où on a eu une pigrièche à tête rousse qui s'était appariée avec une pigrièche à poitrine rose. Donc déjà on était très étonnés d'avoir une pigrièche à poitrine rose dans ce secteur là, mais en plus appariée avec une pigrièche à tête rousse, bon bien sûr la reproduction a échoué.
Alors quelles sont les causes de sa disparition? On les a bien identifiées là maintenant, Denis Ray?
Alors, on a identifié un faisceau de causes, c'est-à-dire qu'on peut pas affirmer quelle est la plus prépondérante par rapport aux autres. Mmh. On a des causes qui agissent à différentes échelles, soit des causes locales, soit des causes, on va dire, un peu plus internationales, voire même à des échelles de temps un peu différentes. Globalement, en France, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une influence de l'évolution de l'agriculture, comme on l'a entendu avec votre auditeur précédent, évidemment avec l'emploi des pesticides, qui a certainement impacté cette espèce qui est uniquement insectivore, donc évidemment la perte des insectes. L'impact. Ouais. On a une perte d'habitat également, bien sûr, en France, urbanisation, etc. Mais on est aujourd'hui à peu près persuadé que des facteurs très importants, voire peut-être les plus importants, se passent le long des voies migratoires et dans les sites d'hivernage. Parce que je rappelle que cette espèce, elle a une aire de répartition qui s'étend de l'Espagne à la Mongolie, donc extrêmement grande. Hein.
Ouais.
Et nous, on est en marge d'aire de répartition, ce qui est très important en fait pour comprendre la disparition de cette espèce. Avec l'Espagne, on est en marge. Et donc, et quand vous avez des impacts qui se situent en zone d'hivernage, donc c'est au sud de l'Afrique, au niveau du Botswana, Namibie, tout ça, toute la population mondiale qui se reproduit de l'Espagne à la Mongolie descend, donc migre, dans cette zone d'hivernage qui est 10 fois plus petite que la zone de reproduction dont je vous ai parlé. Mmh. Et ce qui signifie que quand vous avez un impact sur cette zone d'hivernage, ça impacte toute la population mondiale, et donc certainement le cœur de cette population mondiale également. Et dans ces cas-là, c'est les populations qui sont en marge d'aire de répartition qui sont les premières à subir les effets négatifs de ces impacts.
Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe sur la route migratoire alors de ces pigrièches? Il peut y avoir du braconnage par exemple, des incidents liés aux conditions climatiques?
Alors voilà, ça c'est les éléments sur lesquels on fait beaucoup de conjonctions. On a des infos par divers reportages. On avait vu Arte qui avait fait des reportages sur les braconnages en Égypte. On sait aujourd'hui qu'il y a du braconnage, mais l'ampleur de celui-ci, elle nous est inconnue.
Oui.
Donc c'est assez difficile pour nous de se positionner là-dessus, donc sur l'impact que ça peut avoir sur la population. Mais en effet, le braconnage, ça paraît quand même un problème majeur pour cette espèce durant son trajet migratoire.
Ouais.
Après, si on parle de réchauffement climatique, je dirais que ça a un impact. En tout cas, dans les zones d'hivernage, c'est a priori, ça a été démontré notamment par le Muséum national d'histoire naturelle français, qui a démontré que l'évolution du réchauffement climatique allait nécessairement entraîner une dégradation, une disparition des habitats favorables de l'espèce en zone d'hivernage. Ça va la réduire à au moins 25% de la taille actuelle, ce qui vous laisse une idée de l'impact que ça va avoir sur les populations mondiales.
Et donc,
partant de là, c'est difficile de conserver une espèce en faisant des actions locales. Quoi.
Ouais. Juliette Parmel demande s'il n'y a plus assez d'insectes pour cette pie et d'autres oiseaux. Est-ce qu'ils ne peuvent pas changer de régime alimentaire et manger aussi de petits animaux? Alors, d'autant que j'ai vu, vous allez me le confirmer si c'est vrai ou pas, que dans le bec de la pie, on trouve 2 dents subterminales. C'est vrai ça?
Alors, non. Pas à ma connaissance, enfin des dents à l'intérieur du bec, non, pas à ma connaissance. Il y a une pointe qu'on retrouve sur le bec, qui c'est un peu caractéristique des pigrièches,
ouais.
Mais des dents...
Voilà, c'est le terme de dents qui ne doit pas être bon pas, alors. Ouais.
Voilà.
Alors, est-ce qu'elle peut changer justement cette pie de régime alimentaire ou pas, ou c'est absolument impossible à imaginer?
Alors, ben là, on parle finalement de sorte d'adaptation à ce que peut être les changements.
Oui.
Est-ce qu'elle peut changer? C'est un peu le problème actuellement du changement climatique, qui va beaucoup plus vite que ne peuvent répondre les changements, enfin les adaptations de nos espèces.
Mm-hmm.
Non, il faut pas. Enfin, je pense pas que ce soit là-dessus que l'espèce pourrait changer. Ça me paraît. Oui. En tout cas, dans un avenir proche, il faut pas compter là-dessus, non.
Pour terminer, Denis, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut espérer pour au moins essayer de protéger ces oiseaux en dehors de la France métropolitaine?
Alors, ce qu'on peut espérer, ben, c'est un peu ce qu'on va essayer de lancer, nous, en lançant un peu notre cri d'alarme en France. Là, on va essayer de mettre en place un colloque international pour qu'on puisse faire un peu un état des lieux au minimum européen, voire international de cette espèce, et puis surtout pour que les autres pays mettent en place des mesures de conservation. On pense notamment à l'Italie, qui est le prochain sur la liste, après l'Espagne, la France, l'Italie. On espère que les mesures de conservation qui seront mises en place nous permettront à nous d'envisager dans le futur une recolonisation spontanée.
On l'espère aussi. Merci en tout cas Denis Rey, responsable de programme LPO Hérault, et merci aux équipes de France Bleu à Montpellier. Merci à vous et à très bientôt. Merci à Denis Delbecq à la rédaction en chef de l'émission et à Anna Massardier pour les réseaux sociaux.